Bon début de semaine tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joe et OB. Cette semaine, hey, il y a plus en plus de médecins spécialisés, praticiens, on va l'avoir, qui font du va-et-vient entre le public et le privé. Ah ben ouais, on est au Québec, ça n'a pas de bon sens, il faut empêcher ça. Salut Karim.
Salut Joey.
Ouais, fait que chapitre 34 de comment se tirer dans le genou avec précision, puis tout ça subventionné par le gouvernement du Québec.
Ben écoute, chapitre 1934, j'aurais tendance à dire.
T'as raison, je suis pas assez généreux.
Pour ne pas dire 1984. Mais là, on n'embarquera pas là-dedans.
Évidemment. Non, c'est ça. On parle ce matin, je le mets immédiatement à l'écran, un article de la presse qui est sorti, le 28 février dernier, vers un frein au va-et-vient. On parle de médecins au public et au privé. Parce que comme vous le savez, puis si vous écoutez nous en toute liberté avec Karim, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est qu'au Québec, il y a une possibilité qu'un médecin spécialiste ou médecin de famille omnipraticien, hey, ce mot-là, vraiment, sérieusement, il faudra que je le dise devant le miroir 50 fois, omnipraticien. Bon, on peut faire le va-et-vient entre le public et le privé, mais il y a un délai de 30 jours entre les deux. Majoritairement, ceux qui font ça, ou du moins de ce qu'on a pu comprendre, c'est que, on en a parlé souvent avec Karim, si c'est majoritairement des gens qui font des chirurgies, comme vous le savez, au public, on manque de staff et c'est majoritairement la paperasse qui prend le temps de travail. Dans ce cas-là, ils ne peuvent pas opérer plus qu'une journée en moyenne par semaine. Tandis qu'au privé, c'est aux alentours de 3, peut-être même plus, tout dépendant. Ben c'est ça, la majorité des gens qui vont au privé, autant que oui, c'est le pas, il y en a qui vont dire que c'est le pas du gain, mais c'est aussi pour pouvoir faire leur job, t'sais, c'est pour soigner des gens. Mais là, malheureusement, on est au Québec, fait que semble-t-il que c'est une mauvaise chose, parce que c'est pas estampé de la fleur de lys québécoise, et c'est pour faire du cash dans le méchant capitalisme. Fait que, écoutez, on va passer au travers, moi et Karim, on s'en est parlé, on va passer au travers de l'article au grand complet, parce que sérieusement, juste ça, ça en vaut la peine, à quel point on est dans un monde parallèle, puis tous ceux qui nient encore l'existence du dit dôme québécois, là, je pense que ça fait également partie de ce genre de mentalité-là. Fait que, Karim, écoute, je te laisse aller si tu veux commencer ça.
Oui, super, Joey, puis je pense que c'est la bonne approche à faire ici, parce que tu sais, on a déjà fait des exposés magistraux par rapport au privé en santé, par rapport à des études, tout ça. Maintenant, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de décortiquer l'article, OK? Puis juste en préambule ici, j'aurais tendance à dire, écoutez, ça devient extrêmement lourd, hein, de défendre quelque chose qui apparaît une évidence totale. Mmh. C'est-à-dire, les modèles comparatifs sont faits, les systèmes qui fonctionnent le mieux sur la planète sont étudiés, les modèles comparatifs, non seulement je les ai faits, corroborés de par des études, et d'autres, comme l'IEDM, l'Institut Fraser, les ont corroborés également. Il y a des modèles comparatifs vraiment qui sont faits, et on en revient toujours. Le problème, c'est qu'on est dans un genre de raisonnement circulaire. Un raisonnement circulaire, c'est quoi? C'est-à-dire, je te dis quelque chose, tu me dis quelque chose qui est complètement l'opposé, tu m'amènes des arguments, je t'amène des arguments, et ni d'un côté ni de l'autre, les arguments de l'autre côté sont pris en considération, ce qui fait en sorte qu'on continue à se dire la même chose sans arrêt, et on est en raisonnement circulaire, et il n'y a rien à gagner à travers tout ça. Malheureusement, au Québec, et pas juste au Québec, au Canada de façon générale, le système de santé, on est en raisonnement circulaire.
Ben, c'est quasiment du déni intentionnel. Ouais. C'est quasiment la tête dans le sable, puis blablabla, puis on fait exprès de ne pas voir ce qu'il y a ailleurs par pur monopole public idéologique. Et écoutez, autant, moi, je ne veux pas partir à une argumentation à savoir si la santé devrait être uniquement, puisqu'on parle ici, bien sûr, de tout ce qui est relié, c'est le vieux débat, mais c'est le débat classique du chaque être humain devrait avoir des soins de santé, ne devrait pas payer pour se garder en vie ou quoi que ce soit. En gros, monétiser des soins de santé, je comprends, mais là, c'est même pas... c'est même pas ça. Là. C'est uniquement de voir les systèmes comparatifs et de voir que, si vous voulez, que le but, c'est même pas une question de privé ou de public. Le but, c'est de soigner les gens, point.
Exact.
Mais là, présentement, avec le public, on le voit, c'est que ça marche pas.
Et de trouver qui va soigner, parce que tout est monétisable d'une certaine façon. C'est-à-dire, il n'y a personne dans le réseau de la santé qui n'est pas payé, je peux vous le garantir. Hein. Oui, à la rigueur, tu peux avoir les seuls qui ne sont pas payés, tu peux avoir du privé à but non lucratif. Par exemple, pour des soins à domicile, là, tu vas parler d'aidants naturels, ça, c'est très simple. C'est du privé, on s'entend, mais c'est du privé à but non lucratif. Donc, les gens qui ne sont pas rémunérés sont du privé à but non lucratif. Donc, de démoniser le privé, ça fait absolument aucun sens. Juste ça, c'est un exemple. Mais tout ça, avant qu'on on démarre là, l'article, puis qu'on, disons qu'on on critique là, phrase par phrase et concept par concept, je tiens à dire que ce n'est pas seulement quelque chose qui est québécois, c'est vraiment pan-canadien. Parce que Éric Duhaime, lorsqu'il est parti au Canada, il peut faire des alliances beaucoup pour les ressources naturelles, pour l'autonomie de façon relative, tout ça. Privé en santé, c'est fin de non-recevoir partout au Canada. C'est canadien comme concept, et l'Institut Fraser l'a bien dénoncé, c'est un concept qui est canadien. Et ceux qui rêvent, je sais, là, à travers la droite québécoise, il y a comme l'idolâtrie, là, d'une certaine façon, de l'Alberta. L'Alberta sont beaucoup plus performants que nous dans bien des secteurs. Sur le réseau de la santé, par contre, ils sont vraiment à la remorque à l'échelle internationale, tout comme le Québec. Et même sur certains points, ils sont à la remorque par rapport au Québec. Lorsqu'on a certaines chirurgies électives, ils sont à 30 mois d'attente. Là.
C'est la preuve, Karim, parce qu'on s'entend, le gouvernement albertain finance son système de santé publique.
Absolument.
Donc,
ils sont riches, plus, plus riches que
c'est
nous.
C'est ça que je veux dire. C'est une province plus riche. Fait qu'un peu, c'est bizarre que je vais reprendre un argument qui ressemble à celui que j'avais fait la semaine passée, un peu comme on l'a fait. Quand je te disais que l'Alberta avait un meilleur argument pour la souveraineté que le Québec, bien, l'Alberta a un meilleur argument de dire à quel point c'est de la bullshit au Québec qui disent que ça prend plus d'argent. T'as la province de l'Ouest la plus riche du pays, que son système de santé est encore plus à scrap que le nôtre, puis tu me dis que c'est une question d'argent? Comment?
T'es à la remorque internationale malgré que t'es PIB par habitant. Je veux dire, t'es le numéro un au pays et quand même à l'échelle internationale, dans les pays de l'OCDE, tu te débrouilles plutôt bien de ce côté-là, mais ton système de santé est quand même à la remorque. Et là, envoyez-moi pas un message. À un moment donné, j'ai vu une infirmière ou un médecin au Québec, puis là, je l'ai vu en Alberta, puis c'est mieux. Puis c'était mieux là-bas. On peut tous avoir des arguments anecdotiques d'un côté et de l'autre. Moi, je vous parle des chiffres. L'Alberta est à la remorque internationalement par rapport à son système de santé. Et bon, donc, il n'y aura pas d'alliés sur la scène canadienne par rapport au privé en santé. Oubliez ça, c'est un dogme canadien. Donc, les Canadiens anglais, ils ne se réveilleront pas là-dessus. Ça, c'est clair. Regardons maintenant cet article intitulé « Vers un frein au va-et-vient » de Tommy Chouinard, journaliste très renommé de la presse. Quand même un très bon journaliste.
Ouais, c'est pas le pire, faut le dire.
Faut le dire. Là, c'est-à-dire que c'est un journaliste qui est très crédible. Et,
précise juste qu'avant de lire l'article, lui, il rapporte uniquement la nouvelle. Tu sais, c'est pas son analyse ou c'est pas une chronique. Là, tu sais, c'est vraiment.
Absolument. On connaît même pas son opinion. Puis quand vous regardez l'article, on sait pas c'est quoi son opinion. Mais c'est un journaliste crédible qui amène les faits ici. Québec a l'intention de freiner l'essor de la médecine à deux vitesses. Ah oui, bon, OK.
Ouais, comme ça serait pas déjà le cas.
Il envisage de resserrer les règles permettant aux médecins de faire le va-et-vient entre le régime public et le régime et le privé, où des patients sont prêts à payer des milliers de dollars pour se faire opérer et éviter les listes d'attente. OK.
Mais pourquoi osent-ils payer des milliers de dollars dans une province où c'est que le trois quarts des ménages gagnent moins de 30 000 dollars par année, Karim?
C'est la question à se poser. C'est vraiment la question à se poser. C'est-à-dire que On veut freiner ça. Mais est-ce que le gouvernement, à l'heure actuelle, a calculé les coûts et les bénéfices de freiner ça? Si vous le freinez, ben oui, non, mais c'est important.
Pas tout, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Penses-tu qu'on pensait à ça? Non, non, au Québec, c'est qu'on guérit au lieu de prévenir. C'est qu'on fait quelque chose, on arrive vers la conclusion de l'effet qu'on a créé sans même pas penser. Sauf pour des peccadilles. Quand c'est des petits projets micro, là, on fait des petits projets pilotes, des affaires de même. Mais quand c'est des vrais enjeux, on n'y pense pas en tout. On le fait, puis ah, ben oui. Ça nous explose dans la face, après ça, on dit que c'est la faute des autres. Ah, oh, moi, ça me fait capoter, sérieusement.
Tout à fait. Et je répète la dernière phrase ici. Où des patients sont prêts à payer des milliers de dollars pour se faire opérer et éviter des listes d'attente. OK. Mais est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui considèrent que de payer quelques milliers de dollars pour se faire opérer, ils ont un gain de productivité, un gain de jouissance de la vie? Est-ce que ça, absolument, c'est possible? Pourquoi vous voulez empêcher ces gens-là de le faire? Ça, c'est... et avez-vous... Et si vous êtes en... Mettons pour moi qu'on m'amène un modèle vraiment concret, précis, qui me dit, si on empêche ça, on a un réseau public extraordinaire qui fait en sorte que tous ces gens-là n'auront pas à aller au privé, ne payeront pas au privé, vont pouvoir jouir de la vie, avoir des soins de santé dans des délais raisonnables. J'achète la proposition, mais ça fait 40 ans que vous essayez et que vous n'y arrivez pas.
Mais c'est
maintenant,
ça, parce que...
vous arrivez avec cette dernière phrase où des patients sont prêts à payer des milliers de dollars pour se faire opérer et éviter des listes d'attente. Bien, ces patients-là, pourquoi ils le font? Ça peut être quelqu'un de 72 ans qui le fait parce qu'il sait que son espérance de vie, c'est autour de 80. Puis lui, les 8 dernières années de sa vie, il considère que d'investir dans sa santé, ça en vaut la peine parce qu'il veut jouir de la vie.
Puis il a pesé le pour puis le contre. Il a dit carrément que si j'attends, je reste fidèle à mon gouvernement du Québec, à mon système public, et j'attends 4 ans et demi pour mon opération, pour mettons un genou ou une hanche, ben sa vie va se détériorer. Pas juste sa vie physique, sa santé puis sa douleur, ça se peut que sa qualité familial, son environnement de vie, tout ça, le fait qu'il peut travailler beaucoup moins bien, que tu sais, ça va au niveau de financier, tout ça, ça affecte. C'est soit ça, ou soit, oui, je débourse, mais c'est réglé, puis ça va être beaucoup moins long, puis je risque pas de vivre toutes ces affaires-là à long terme.
Tout à fait.
Ben, puis souvent, le calcul n'est pas difficile à faire. Tu as absolument raison, Karim. La seule raison pourquoi ce type d'argument de vouloir faire une guerre entre le va-et-vient serait légitime, ça serait que si déjà on aurait un système public qui fonctionnerait à tour de rond, ça fonctionnerait bien, les listes d'attente seraient relativement basses, et la seule raison pourquoi ces médecins-là feraient le switch, c'est justement comme le bon vieux argument de l'appât du gain. Si vraiment on aurait le système fonctionnerait à côté, malgré ça, on aurait une désertion de médecins spécialistes uniquement pour faire du gros cash sur le dos du monde.
Ouais.
Là, il y aurait une raison, là, il y aurait un argument, mais là, on n'est pas là pantoute. Le système est à chier. Puis la seule raison pourquoi ça tient debout, puis le gouvernement ne veut jamais l'admettre, c'est à cause des médecins spécialistes, c'est à cause des cliniques privées qui font de l'opération, c'est à cause des organismes de placement privé pour les infirmières. C'est tout ça, mais jamais ils vont l'admettre. Ah oh, non, non, parce qu'eux autres, à ce moment que les gens vont, les soignants vont au privé, c'est comme s'ils partent dans le néant distordu. Ben non, du monde au privé, ça ne soigne pas du monde. Ben non, c'est là pour faire du cash.
Mais c'est exactement, puis c'est ça que j'essaie d'expliquer depuis un bon bout de temps, c'est-à-dire les gens qui sont soignés au privé n'ont pas à être soignés au public. Tu ne peux pas faire l'équation en te disant, OK, tout ce qui est soigné au privé, ça n'existe pas. Et tu considères la liste d'attente au public sans considérer les effets de désengorgement du privé. OK. Et, je veux dire, les cliniques privées pour les chirurgies électives, on s'entend? Pour les chirurgies électives. Puis après ça, on va en revenir un petit peu plus tard dans la chronique sur le bienfait du système public et comment tout ça ne résiste pas à la littérature internationale, à la littérature des systèmes de santé internationaux en ce qui a trait au fait que si les médecins vont, si on, on relève l'interdiction de la pratique mixte, c'est-à-dire privé-public, que tu peux y aller quand tu veux pas, puis d'un côté et de l'autre. Tout ça fait en sorte que les médecins, en moyenne, ne passent pas moins d'heures au public. Pourquoi? C'est assez évident parce que le public a sa raison d'être et pour certains cas, le public est plus efficace. Pour certains cas, le public est plus approprié. C'est très, très clair, puis on va en revenir un petit peu plus tard à ça. Mais pour certaines chirurgies électives, pour plusieurs traitements spécialisés et pour l'efficacité des plateaux techniques, de façon générale, le privé l'emporte sur le public. Dans beaucoup d'interventions de mineurs à modérés, c'est ça qui est très important de considérer. C'est-à-dire, changer un genou, changer une hanche, changer une cataracte, faire opérer une hernie discale non compliquée, on parle de chirurgie de mineur à modéré. Faire une résonance magnétique, faire un examen pour les tunnels carpiens, ce qu'on appelle un électromyogramme, c'est des choses de mineur à modéré. Le privé a démontré, selon la littérature internationale, des gains de productivité, des gains d'efficience lorsque vous libéralisez un réseau. Ça, c'est très, très clair. Des chirurgiens orthopédiques, au Québec, en clinique privée et un peu partout à travers le monde, sont en mesure de doubler leurs opérations, le nombre d'opérations qu'ils font par rapport à s'ils le font au public. À partir de ce moment-là, si vous interdisez la pratique mixte ou si vous la rendez tellement compliquée, comment vous allez récupérer dans le réseau public ce gain de productivité de 2 à 2 fois plus important que vous avez au sein des plateaux techniques privés? Comment vous allez faire ça? Ben, c'est là que Christian Dubé se doit de me répondre, honnêtement. Là, je commence à être tanné de tout ça. À un moment donné, là, je veux dire, c'est bien correct là, de tourner autour du pot puis d'avoir un ministre de la Santé que tout le monde adore. Puis moi, j'ai passé à peu près là, 1 an à ne pas le critiquer puis à être bon joueur. Mais là, c'est assez. On continue là-dessus. Là, puis je suis pas de bonne humeur en ce moment.
Karim is angry.
Dans les 10 derniers mois, 137 médecins ont quitté temporairement, le régime public plus d'une fois pour aller travailler dans le privé. Oh, quelle catastrophe. C'est le double d'il y a 5 ans.
Ah, on s'en demande pourquoi.
Le phénomène est en hausse de 10% par rapport à l'année par rapport à l'ensemble de l'année de 2022-2023. OK, il y a une hausse. On comprend qu'il y a une hausse.
La pandémie, selon moi, est le facteur principal. T'sais, on a vu à quel point la débandade du système public, puis il y en a beaucoup, même des futurs médecins en processus d'avoir leur doctorat, ont dû se dire, m'a dit comme le bon vieux mime, mais désolé pour le juron, ben fuck this shit, I'm out. Je m'en vais dans le privé.
Exactement. Et là, tu sais, on se pose la question. Oui, tu as de plus en plus de médecins qui vont, mais ça demeure relativement marginal et on va y arriver à la fin de l'article.
Ben oui.
Ça demeure quand même 3,7%. Je veux dire, c'est ultra marginal par rapport au nombre de médecins qui sont dans le réseau public. Mais quand même, OK, il y a une hausse, il y a une forme de tendance, c'est correct. OK, on peut se poser la question. Est-ce que la réponse, c'est plutôt que le réseau public ne répond pas à la demande? Ou c'est le fait que tu as des gens de docteurs qui veulent absolument avoir, c'est l'appât du gain. Moi, je peux vous le dire personnellement, je suis dans le réseau public à l'heure actuelle. Je sais très bien combien ça me rapporterait dans le réseau privé. Ce ne serait pas plus que dans le réseau public. Là. Je veux dire, mettons que demain matin, je me désaffiliais de la RAMQ. Moi, je suis 100% public en passant. Il y a des gens qui s'imaginent que moi, je suis le médecin au privé qui veut plus de privé à tout prix. Non, c'est pas ça. Moi, je suis 100% dans le réseau public. Je travaille dans le réseau public. Pardon. Il y a des déficiences dans le réseau public, mais j'aurais même pas d'appât du gain comme tel. Peut-être que certains chirurgiens peuvent en avoir, mais oui, mais c'est parce que d'un autre côté, tu les bloques à une salle ou une demi-salle d'opération par semaine. Eux autres, ils veulent opérer, puis c'est normal. C'est pas, oui, il y a de l'appât du gain, mais c'est normal, cet appât du gain-là.
C'est ça,
et en même temps, l'appât du gain amène à soigner des patients puis à opérer des patients. Mais de dire que le réseau privé est ultimement plus payant que le réseau public pour les médecins, c'est faux de façon générale. Moi, je n'aurais même pas d'intérêt financier à aller dans le réseau privé.
Par contre, Karim, est-ce que ton niveau de productivité augmenterait, par contre? Puis quand je dis productivité, mon but, c'est pas de dire que tu n'es pas travaillant. Au contraire, écoute, tu es urgentologue, puis tu fais ta job de manière extraordinaire. Mais justement, le fait que... On parle des chirurgiens, justement, ils sont capables de faire autant qu'ils sont payés équivalent du même salaire, mais ils font davantage de chirurgies par semaine qu'ils faisaient au niveau du public. T'sais, peut-être au niveau du salaire, comme tu le dis, il n'y a pas nécessairement d'attrait. Puis garde, autant que tu peux dire qu'il y a des loges dans toutes les professions, il y a des médecins, malgré que si tu te rends au doctorat, c'est que tu veux le faire, ce job-là. Ce n'est pas une petite jobine de pompiste, en tout respect pour les pompistes qui nous écoutent. Mon but, c'est pas de vouloir dire que vous avez fait une mauvaise job, mais c'est ça. Parce que, tu sais, on s'entend que... Là, je vais faire mon Jordan Peterson ici pendant 5 secondes. Là.
Et tu l'aimes, Jordan Peterson, ça, on le sait.
Non, mais je ne le citerai pas. Mais j'aurais pu dire, je vais faire mon psychologue, ça va être moins pire, parce que là, c'est le psychologue que je connais le plus.
Mais tu as droit d'aimer Jordan Peterson.
Non, mais il y a des trucs que je l'aime. Il y a des trucs, t'sais, le gars a une belle analyse du point de vue psychologique de la politique, mais ses politiques, en général, c'est du hit and miss. Là, t'sais, c'est pas écouter son débat avec Matt Dillahunty, il se fait décrisser sur la liberté d'expression. En tout cas, fin de la parenthèse. Ouais, fait que ce que je disais, c'est que, écoute, déjà en partant, les gens qui s'en vont en médecine, généralement, c'est beaucoup plus de gens qui ont, on va se le dire, le cœur sur la main. Autant qu'il y en a, oui, il y aura toujours, comme dans n'importe quelle profession, j'allais dire, du monde qui ont la peau du gain ou quoi que ce soit, mais je pense que dans le but général de l'être humain, de vouloir aller dans la médecine, c'est pour justement aider des gens, soigner des gens, justement, aider son prochain, entre guillemets, t'sais, une tendance beaucoup plus altruiste. Donc, en partant, est-ce qu'il n'y aurait pas, puis je te pose la question, Karim, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière cet attrait-là vers le privé, peut-être pas nécessairement, comme tu le dis, un fonds d'attrait financier, mais davantage que moi, j'ai fait toutes ces années-là d'études pour être médecin, puis tabarouette, je passe mes journées à remplir plus de rapports qu'à soigner du monde. Je veux, tu sais, comme on dit, de valoriser ma profession, puis je veux que mes... Je veux que ce que je fais dans la vie, ça vaille la peine, puis je veux que je me sentir utile dans mon travail, puis tout ça, puis que si je peux soigner, mettons, là, je dis un chiffre au hasard, là, je connais aucunement les ratios, mettons que je soigne 3 personnes par jour, mais qu'au privé, je peux en soigner 6 ou 8, ben tabarouette, je vais aller au privé. Parce que moi, j'ai fait toutes ces études-là pour ça, pour soigner les gens, puis pour justement aider le plus de gens possible, puis dans le public, je ne suis pas capable.
Oui. Et là, tu fais la différence, puis c'est un point super intelligent que tu amènes, Joey, à l'heure actuelle. C'est-à-dire, tu peux avoir, tu as deux formes de gains, OK? Tu as des gains primaires et tu as des gains secondaires. Mm-hmm. En tant qu'être humain, on est tous, on désire tous des gains à la fois primaires et à la fois secondaires. Les gains secondaires, c'est quoi? C'est-à-dire rémunération, faire plus d'argent, avoir plus de notoriété, avoir plus de célébrité, pour certains, ça peut être ça.
Oui.
Je veux dire, là, on parle de gains qui sont secondaires. Des gains primaires, c'est être satisfait de ce que tu fais toi-même. Et à des degrés différents, tout être humain veut les deux, OK? Mmh. Et à des degrés différents, tu peux avoir une propension à vouloir plus de gains primaires, plus de gains secondaires. Mais ce que tu as décrit, c'est un gain primaire. Puis oui, c'est vrai. Les médecins, on n'est pas ce qu'on décrit là, de façon générale à travers la population, des espèces de Frankenstein qui veulent juste là, gagner de l'argent et scraper le monde. Là, c'est un peu la réputation qu'on nous donne quand c'est complètement faux en réalité. Quand tu reviens chez vous le soir, moi quand je reviens d'un chiffre d'urgence, je veux dire, ça me hante très souvent de savoir est-ce que j'ai fait la bonne chose ou j'ai pas fait la bonne chose. Et de recevoir une fois de temps en temps un message d'un patient qui me dit « Hey, vous avez vraiment fait la différence dans ma vie », ça, c'est un gain primaire. Il n'y a personne qui le sait sur la place publique. Il n'y a pas de salaire qui revient en arrière de ça, mais c'est un gain primaire qui est très important. Puis c'est sûr que lorsque tu es un chirurgien qui a la capacité d'opérer puis de changer vraiment le cours des choses pour une personne, pour des personnes, pour des patients, et l'État te menote à avoir une salle d'opération par semaine, à opérer une journée par semaine ou des fois une demi-journée par semaine, c'est sûr que, oui, par gain, par intérêt secondaire, par gain secondaire, tu veux aller opérer plus pour faire plus d'argent, pour gagner ta vie, puis ça, c'est légitime en passant. Mais d'un autre côté, tu as une valorisation aussi. Je veux dire, à changer la vie des gens puis faire en sorte que les gens arrêtent de souffrir et utiliser ton talent, ton expertise pour quelque chose que tu as étudié pendant plus de 10 ans de ta vie.
Ben, c'est ça.
Donc, tu as les deux gains qui sont tout à fait légitimes et le réseau privé, à l'heure actuelle, au Québec, nous permet de le faire. Imaginez-vous là, un scénario où est-ce qu'on abolit complètement le réseau privé. Et là, on en revient à ce que M. Dubé proposait en campagne électorale en 2022. M. Dubé voulait deux hôpitaux privés. Ça n'arrivera pas. OK, bon. Ça arrive. J'y croyais au départ. Puis j'ai fait partie des bons joueurs qui ont dit, OK, je pense que Christian Dubé, il veut vraiment améliorer le réseau. Je pense qu'il le veut ultimement.
Ça a passé d'hôpitaux à clinique spécialisée. Ça n'a pas arrêté de rapetisser.
Et là, ce n'est pas juste rapetisser. C'est, je veux dire, compliqué de façon très significative ce qu'on appelle la pratique mixte, le passage de privé à public pour les médecins. Mais comment il va les équiper, ces deux hôpitaux privés, M. Dubé? Et comment, dans son dernier projet de loi, le PL15, il y a une partie qui est inclue lorsque, et on se rappelle, je veux dire ça, c'est nous qui l'ont dit les premiers là, au PCQ, c'est-à-dire il a repéri ça, M. Dubé, lorsque les délais sont déraisonnables au public, que la carte d'assurance maladie paie au sein des cliniques et des cliniques privées, les interventions. Ben, comment il va faire s'il complique le va-et-vient entre les médecins du public au privé? Comment il va faire vraiment pour recruter son monde dans le réseau privé qui, jadis, il considérait qu'il était important au sein de la réforme du système de santé québécois, ben c'est un peu ça le problème. M. Dubé, en ce moment, il est très incohérent. Il est ultra incohérent dans ce qu'il amène, parce que comment il va être en mesure d'honorer ses promesses électorales et comment il va être en mesure d'honorer son projet de loi avec ce qu'il vient de prétendre, avec ce qu'il vient d'annoncer. Maintenant, ce n'est pas un projet de loi, ça... Peut-être que les journalistes l'ont interprété d'une certaine façon lorsqu'ils l'ont interviewé. Il faut quand même mettre les choses entre guillemets.
C'est ça, parce qu'il dit plus loin dans l'article, on va continuer de lire à l'instant. Parce que présentement, quand on tient, on aurait dû le dire au début, mais on excuse là-dedans, c'est que présentement, le gouvernement est en réflexion sur ce sujet-là. Mais c'est rare que quand un gouvernement est en réflexion sur quelque chose, qu'il ne va pas nous sortir dans 6 mois pour nous dire « finalement, ça ne vaut pas la peine ». Il y a toujours de quoi nous sortir.
Je veux dire, on s'entend. Si le ministre de la Santé, le gouvernement, le cabinet du premier ministre, je veux dire, ligue cette information-là à un des top journalistes au Québec, à un des journalistes là, qui a le plus de reach au Québec, je pense qu'il y a quand même quelque chose en arrière, on s'entend là. Je pense que c'est pas juste là, des oui-dis. Maintenant, Absolument. On regarde dans l'article, médecin ayant quitté le régime public depuis 1 an selon la spécialité. 32 orthopédistes, 23 radiologistes, 15 pneumologues, 12 chirurgiens généraux, 10 ophtalmologistes, 45 autres. Ça veut dire des omnis, là, la majorité. Ouais. Bon. Mais on est dans des ratios très marginaux. Très marginaux, là. Quand tu regardes, tu sais, c'est pas... T'as pas, là, 10 000 qui ont quitté tes dents. Mettons que tu prends tous ces médecins-là, OK? Ce qui regroupe, là, quand on le voit dans l'article un peu plus bas, autour de 3,7%. Vous imaginez-vous vraiment que de rapatrier ces médecins-là dans le réseau public, soudainement, vous allez avoir un réseau public ultra performant. Et là, on va se comparer aux Pays-Bas, à l'Allemagne, à la Suisse. Non, ça n'arrivera juste pas. On est dans une inversion du réel ici.
Non, puis c'est plus une genre de réaction de culte. Ah, comment ça, vous osez quitter le paradis? Mais non, c'est impossible. Tout le monde aime le paradis. Fait que vous allez revenir, même si vous êtes juste une centaine. Non, il faut montrer l'exemple. C'est très cultiste un peu dans le style que j'ai vu ça.
Tout à fait. On continue là-dessus.
Oui.
Révision des règles. Les règles actuelles favorisent le va-et-vient entre le public et le privé. Faux. Les règles actuelles restreignent le va-et-vient. Parce qu'à l'heure actuelle, avec les règles, il faut que tu remplisses une paperasse. Je sais très bien c'est quoi cette paperasse-là. Il faut que tu la remplisses. Juste le fait de la remplir, là, c'est très tannant. Et il faut que tu l'envoies, il faut que tu attendes 30 jours pour pouvoir switcher. Et lorsque tu veux revenir au public, il faut que tu remplisses la même paperasse, puis tu attends 8 jours. Donc, tu as des délais qui restreignent. Contrairement à Suisse, Pays-Bas, Allemagne, Norvège, Australie, qui sont des systèmes qui performent beaucoup plus que les nôtres et qui n'ont pas ça du tout. Il n'y a pas d'interdiction de la pratique.
Mais petite précision, Karim, durant ce 30 jours-là, est-ce que tu es vraiment en arrêt ou tu peux continuer à travailler de peu importe le côté que tu trouves public?
Non, tu peux continuer à travailler.
OK, c'est juste pour savoir, c'est ça.
Ah oui, non. Ah non, sinon ce serait très bolchevique.
Non, parce que au début, parce que moi, je suis pas dans le domaine, je me suis dit, faut-tu vraiment genre qu'il arrête de travailler pendant 30 jours avant de faire le switch? Ben, ça me semble c'est dangereux.
Genre, non, parce que là, tu aurais plus le droit de suivre tes patients. Ça ferait plus. Mais écoute, non, Joey, j'aime pas ça que tu dis ça. Là, tu leur donnes des idées.
Je vais me fermer à 30, je vais te laisser
non, parler. C'est-à-dire que là, tu es en train de leur donner des idées. Là. Ne surestime jamais les politicos. Là, tu es en train de leur donner des idées.
Ah, je me zippe.
Un groupe créé en 2005 après le jugement Shaoli. Rappelons, c'est quoi le jugement Shaoli? Oui. C'est le jugement de la Cour suprême du Canada. Donc, on n'est pas dans conspi.tv ou illuminati.com là, ici. C'est vraiment un jugement de la Cour suprême en 2005 qui donnait l'autorisation parce que Dr. Shaoli s'était présenté, il avait monté un dossier en Cour suprême avec un de ses patients qui attendait pour une chirurgie élective. Je crois que c'était la chirurgie de la hanche. Et finalement, la Cour suprême lui a donné raison et je cite encore une fois le magistrat en question, c'est-à-dire avoir accès, et ça renversait une certaine portion de la loi canadienne sur la santé, un certain fardeau de la loi canadienne sur la santé, en disant avoir accès à une liste d'attente ne représente pas l'accès à des soins de santé. Et à partir de ce moment-là, ça a ouvert la possibilité à un réseau privé. Réseau privé, cependant, la province du Québec, avec son article 15, interdit la possibilité d'avoir un assureur privé, sauf pour des cas très, très, très restreints. Et le son, on va en venir là.
En gros, le jugement Shaoli a ouvert les portes de l'enfer sur la belle province le beau pays du Canada.
Exactement. Selon déplore depuis des années des médecins québécois pour le régime public, MQRP, je ne connais pas. Un groupe créé en 2005. Mais moi, je veux bien, là, je suis sûr qu'ils ont des bonnes intentions, le MQRP. Mais est-ce qu'ils peuvent venir discuter avec... Ils pourraient venir discuter avec moi, ils pourraient venir discuter avec le parti. Voir, c'est quoi leur solution? Lorsqu'on a une littérature internationale qui nous dit que l'utilisation du réseau privé, la libéralisation des systèmes de santé, encadrée par l'État pour s'assurer que tout le monde est assuré, c'est la meilleure façon de fonctionner. C'est quoi les recommandations du MQRP? Ces gens-là qui considèrent que le jugement Shaoli, qui est le jugement de la Cour suprême du Canada en 2005, est un jugement qui va détruire, entre guillemets, là, le réseau de santé canadien. Bon, ils se basent sur quoi, là, le MQRP? J'aimerais bien les entendre, mais manifestement, ils ne voudront pas nous parler. Bon, il y a 15 ans, il alertait le gouvernement sur le va-et-vient de médecins entre le public et le privé. On était alors au balbutiement d'un phénomène qui allait prendre de l'ampleur. Oh, OK. Bon, hey, ça prend beaucoup d'ampleur. Là. C'est 3,7% des médecins qui sont dans le réseau privé par rapport à 96,3% qui sont dans le réseau public. Je veux dire, méchant mouvement. Là. On a vraiment là, on est dans une tendance extrême à l'heure actuelle. C'est du gros n'importe quoi. Bon. Maintenant, Révision des règles. Les règles actuelles, OK, ça c'est bon.
T'es rendu pour sortir du régime public.
Pour sortir du régime public, un médecin n'a qu'à transmettre un avis à la Régie de l'assurance maladie du Québec et attendre 30 jours. On en avait déjà parlé tout à l'heure.
C'est ça. Okay?
Exactement. Québec prête à changer les règles, OK, avec le ministre Dubé. Personnellement, je ne l'appréciais pas durant la pandémie. Puis finalement, après la pandémie, je trouvais qu'il y avait quand même certaines bonnes idées, sauf la structure Santé Québec, mais quand même, il y avait des choses à travers lesquelles on était capable de s'entendre. Mais là, je ne vois même pas sur quoi je peux m'entendre avec lui aujourd'hui. Là, je trouve que c'est très difficile. Québec prête à changer les règles. Or, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a l'intention de changer les règles du jeu. Une réflexion sérieuse est en cours, mais aucune décision n'a encore été prise selon des informations obtenues. OK, bon, au moins, il n'y a pas de décision qui ont été prises.
Les bullshitters de job qui nous ont spiné l'information. C'est même qu'on a... on va faire un Frank qui lit les articles. On va dire pas les informations obtenues, c'est ça.
C'est ça. Ça, c'est ton rôle de faire ces choses-là. C'est ton rôle. Des discussions auront lieu avec les fédérations de médecins en vue de... Non, mais tu le vois, c'est quoi la tendance, là? Des discussions auront lieu avec les fédérations de médecins en vue de resserrer la réglementation au cours des prochains mois. Donc, l'intention, on la voit très bien. Ici,
c'est ça. C'est comme tu disais, mettons, on va parler de vouloir... On va parler de réglementer le privé. On va inviter les syndicats pour voir s'ils sont d'accord avec nous. No shit, Sherlock, sont tous d'accord. Go figure. C'est voyons donc. Tu verras jamais une fédération ou d'un collège des médecins ou whatever dire que c'est une mauvaise idée, là.
Et là, tu vois, le gouvernement ferait passer le délai pour se désaffilier de la RAMQ de 30 à 180 jours.
Six mois.
C'est ça. Fait que là, t'es comme à six mois, ça veut dire, mettons que tu as des patients, par exemple. Là, on va en arriver avec le président de la FMSQ, ça va être intéressant tout à l'heure. OK? Mais là, c'est parce que tu as, par exemple, des médecins, puis je sais, tu as des orthopédistes, par exemple, qui, eux, ils ont des patients qui sont sur une liste d'attente. Et lui, le fait que ça y prend 30 jours à passer d'un côté et de l'autre, il peut quand même aller au réseau privé puis revenir au réseau public pour opérer ses patients dans le public et dans le privé.
À la limite, à seconde qu'il rentre dans le privé, il faudrait quasiment qu'il écrive son ordonnance tout de suite en arrivant pour que dans six mois, il puisse déjà repenser à retourner dans le public. Fait que c'est quasiment un one-in, one-out.
Catastrophe. Tu veux qu'il puisse opérer dans les deux. Et là, c'est vrai qu'il y a des inégalités, mais t'es mieux d'avoir ces inégalités-là parce que dans un réseau public qui est géré de par du rationnement. Et c'est normal qu'il soit géré de par un rationnement parce que c'est l'État qui paie à 100%. Donc, tu vas toujours avoir du rationnement. Et Gaétan Barrette lui-même le dit. Okay? Ça ne vient pas là, de l'extrême droite, là, tout ça. Là. Ça vient de Gaétan Barrette, un gars de gauche. Il va y avoir du rationnement. À partir de ce moment-là, lorsque tu as du rationnement, est-ce que tu aimes mieux que tu as un chirurgien qui ait son temps opératoire dans le public et qui aille désengorger les listes d'attente dans le privé, ou tu veux soit qu'il s'en aille 100% dans le privé puis qu'il décide de ne pas revenir dans le public, ou bien qu'il reste dans le public puis qu'il fasse une vie relativement peinard à opérer une journée par semaine, sans aller faire profiter de son expertise dans le réseau privé. Et tout ça en vient à une phrase très importante. Moi, c'est un peu cette phrase-là qui, je pense que ça résume beaucoup de choses. C'est-à-dire, la question qu'on peut se poser ultimement, est-ce qu'il vaut mieux tout s'attendre très longtemps au nom de l'égalité absolue? Ou bien, est-ce qu'il vaudrait mieux améliorer notre système de santé en acceptant un minimum d'égalité? Inégalités qui sont naturellement déjà présentes dans notre système, tout en soignant l'ensemble de la population mieux et plus rapidement. Je pense que les gens ont vraiment intérêt à réfléchir à cette question-là. Et lorsqu'ils vont mettre un vote dans une urne, ce serait intéressant de réfléchir à ça. Parce que l'égalité absolue, ça n'existera jamais. C'est impossible. Ça n'a jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité, ça n'existera pas. Le système de santé le plus parfait au monde, comment je peux dire, il se doit d'avoir des inégalités, mais les inégalités se doivent de respecter la dignité humaine. Dignité humaine, ça veut dire que tout le monde se doit d'être soigné en temps opportun, proportionnellement à la richesse du pays. Dans un pays comme le Canada, les gens se doivent d'être soignés. Qui attendent 6 mois et plus pour une chirurgie, c'est complètement inacceptable. On est trop riche pour ça. Il faut trouver une façon très différente. Il faut trouver une façon très différente d'élaborer notre système de santé. Et il y a des gens qui ont déjà fait le travail. On en a déjà parlé dans d'autres chroniques. Maintenant, quand on regarde le Collège des médecins inquiets, la réflexion du gouvernement va dans le sens d'une proposition faite par le Collège des médecins l'an dernier. Cet ordre professionnel a recommandé de donner un tour de vis afin de s'assurer des soins véritablement universels et accessibles. Mais je veux dire, le but, moi, je suis d'accord avec le collège là-dessus, c'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec le tour de vis, ça dépend comment tu le vois. C'est-à-dire, oui, il faut que les soins soient le plus accessibles possible. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais la façon qu'il soit le plus accessible possible, ce n'est pas de restreindre la pratique mixte. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de restriction à la pratique mixte, de s'inspirer des modèles les plus performants au monde et de faire en sorte que chaque unité de temps donnée par médecin, par professionnel de la santé, revient au patient. C'est-à-dire que là, on part d'une bonne intention du collège ici, mais pour honorer cette bonne intention-là, il faut regarder les modèles comparatifs internationaux. Il ne faut pas continuer dans des réformes à n'en plus finir qui ne cessent d'exister depuis 40 ans. Ça n'a pas de sens.
Puis surtout, en plus, l'affaire qu'ils n'ont pas l'air à comprendre, ou du moins ils savent, mais ils n'osent pas se le dire, c'est que oui, on a des services universels et accessibles avec le système public. Mais le problème, c'est que les Québécois le savent. Ce qu'on a accès, c'est qu'on a accès à l'accessibilité. C'est qu'on a, on a accès à entrer dans le processus, puis pas plus que ça. Puis, bien, regarde, on le voit très bien. Puis même de plus en plus, même les médias mainstream commencent à en parler, à quel point c'est rendu que ça n'a pas de bon sens. C'est que de facto... Oh, j'allais être choumé, je suis désolé, c'est rare que ça m'arrive dans un podcast. De facto, les Québécois savent que le système est scrap. C'est qu'il y a vraiment un gros problème avec le système de santé. Donc, on est vraiment dans des... La majorité des Québécois qui est moyennement intelligent va comprendre que ça y prend une voie de contournement. Soit en trouvant un raccourci, ma cousine est infirmière ou mon beau-frère est médecin ou de ci, de ça.
Là, tu parles du capital social, exactement.
C'est ça, pour rentrer puis se faire soigner. Parce que quand tu te rends aux soins eux-mêmes, ça va bien.
Tout à fait. Excellent.
C'est s'y rendre le problème. C'est pas destination qui est le problème ou le résultat final. C'est tout le chemin que tu as fait avant. Ah, oh, il est gratis. Ben oui, mais combien de temps que ça va te coûter? C'est peut-être pas gratuit en argent, mais oui, ça l'est avec tes frais de taxes et tes impôts, mais ça te cautionne en temps puis en qualité de vie, en calvaire, par exemple. C'est là, justement, ce qu'on parlait tantôt du fameux pour ou contre, du balancier entre ça puis le privé. Puis la solution est très facile à prendre.
Tout à fait. Et là, tu vois, le collège ajoute que cette alternance entre le public et le privé a aussi un impact sur la disponibilité des ressources professionnelles au sein des établissements publics. L'essor du privé draine la main-d'œuvre du public. OK, mais ouais. Est-ce que le collège peut répondre à cette question? C'est-à-dire, si un chirurgien est en mesure d'opérer autour de 2 fois plus sur un plateau technique privé, qu'est-ce qu'on fait si on l'oblige à se rapatrier complètement dans le réseau public? Ou est-ce que les plateaux techniques sont moins efficaces? ben, on alourdit potentiellement les listes d'attente globales de la population. Et est-ce que le collège serait d'accord, puis c'est pas à eux de décider, c'est au ministre de la Santé de décider, mais je veux dire, je pose la question, est-ce que le collège serait d'accord avec le fait que lorsqu'il y a des délais qui sont déraisonnables dans le réseau public, que la carte d'assurance maladie paie dans le réseau privé?
Hérésie!
Ben, je veux dire, non, mais je pose la question ici, là.
Ben ouais.
Je pose la question comme ça se passe en Suède, comme ça se passe aux Pays-Bas, comme ça se passe en Allemagne, comme on a quand même étudié les réseaux. Ce qu'on veut ultimement, puis je pense que les gens qui ont une mauvaise intention dans tout ça, que ce soit le ministère de la Santé, les autres professionnels, les divers partis politiques, je pense que c'est plutôt rare les gens qui ont des mauvaises intentions. C'est juste que je crois qu'il y a des gens qui sont moins dogmatiques que d'autres. Et je pense, en toute modestie, qu'on en fait partie sur certains points. Et par rapport à ça, je pense que oui. Moi, je suis pas... je veux dire, je pense que le réseau public a tout à fait sa place. Et ce qui est très intéressant de mentionner, c'est-à-dire que la littérature internationale nous démontre que les médecins qui exercent dans les pays qui permettent la pratique mixte, ils mettent pas moins d'heures globalement dans le réseau public. Pourquoi? Parce que souvent, le réseau public leur permet de traiter des cas plus complexes et qui sont professionnellement plus stimulants. Pourquoi? Parce que les cas vraiment très complexes, c'est difficile que le privé s'intéresse à ça.
C'est des cas de figure, souvent.
Quand tu parles des chirurgies très avancées en cancérologie, des traitements de chimiothérapie avec des équipes multidisciplinaires, tout ça, on s'entend beaucoup à l'échelle internationale en santé pour dire que ça, c'est le réseau public, là, vraiment, qui est le chef d'orchestre. Donc, le but ultime d'un système de santé, c'est de faire en sorte que et le public et le privé puissent offrir ce qu'ils ont à offrir en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses intrinsèques. C'est un peu ça. Et ça, c'est pas dogmatique comme vision. Malheureusement, au Québec, au Canada, de façon générale, on est dans du dogmatisme total.
C'est ça, puis je pense absolument raison. Je pense que c'est pas nécessairement des gens qui ont des mauvaises intentions. La seule chose que je verrais là-dedans, rajouter par-dessus le crémage de dogmatisme, c'est que c'est vraiment une lutte de pouvoir aussi. Là. Tu sais, on le voit avec le Collège des médecins, on le voit avec les organismes syndicaux, du jour au lendemain. Pourquoi tu penses qu'ils veulent même pas? Parce qu'ils veulent garder... Tu sais, j'ai toujours dit, puis c'est pas une nouveauté, c'est pas un breaking news ce matin, là, c'est... Les syndicats et les collèges, les organisations syndicales ou de fédérations de je ne sais pas trop quoi, ils ont les couilles sur le gouvernement depuis X temps, depuis des décennies. Et ils ont le monopole sur ce qu'ils gèrent. Puis pourquoi pensez-vous tout le temps que tout ce qu'ils proposent, tout le temps ce que le gouvernement veut faire, ça a toujours été ça parce qu'ils n'osent même pas se battre contre eux autres parce qu'ils savent le pouvoir qu'ils ont. Mais le problème, c'est que le système qu'ils prônent ne vaut pas de la merde. Puis c'est grâce majoritairement aussi de leur faute, parce qu'à cause de leur dogmatisme et leur immobilisme, à vouloir que ça reste toujours pareil, donc garder leur pouvoir et pas amener l'innovation et le but premier est de soigner des gens dans le cas du système de santé, bien ça fait qu'à un moment donné, la réalité les rattrape. Puis comme le reste, là, les médecins et les nouveaux sont pas fous, ils se disent « Hey, j'ai fait je sais pas combien, quasiment au-dessus de doctorat, c'est quoi, c'est 9 ans, Karim? » À peu près, 9-10 ans?
C'est entre 8 et 12 ans. Là.
Bon, entre 8 et 12 ans,
de ce que tu décides de
je faire. Je ne ferais pas d'études en médecine, mais si je me mettrais à la place, c'est sûr et certain que dans le cadre actuel, à quantité d'années que j'ai mis d'études puis d'argent là-dedans, penses-tu vraiment que je vais aller au public? Fuck up! C'est même pas une question, comme tu dis, c'est même pas une question d'argent. C'est une question de productivité. Je vais-tu vraiment passer mes journées comme moi, médecin, j'ai fait 12 ans d'études pour remplir des crises de rapport? Non, je vais aller soigner le monde. T'sais, c'est comme si... Je sais pas, tu t'en vas dans l'armée pour servir ton pays, puis que le trois quarts du temps, on te demande de remplir des sacs de sable. Quand est-ce que je vais le voir, le front? Quand est-ce que je vais affronter l'ennemi? Ah oh non, non, on a besoin de sacs de sable. Je dis pas que c'est pas important, les sacs de sable, mais à un moment donné, il n'y a pas juste ça non plus. Là.
C'est quand même une belle comparaison. Non? J'aime bien.
C'est un peu ça.
J'aime bien ta comparaison. Et là, moi, je terminerai en disant le président de la Fédération des médecins spécialistes ici, le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qu'est-ce qu'il nous dit là, par rapport à ça? Puis je sous-termine avec ça. Après ça, je vais vous parler de quelque chose là, rapidement. Mais le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, il nous dit qu'il y a un malaise parce que des médecins encouragent leurs patients à aller au privé alors que ceux-ci doivent débourser des sous de leur poche. Écoutez, lui, ce médecin, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, là, on nommera pas de nom là, en ligne là, ici, mais s'il y a un malaise avec ça, ben moi, je lui dirais que personnellement, c'est pas que j'encourage mes patients, mais je leur donne l'option, là. C'est-à-dire, je leur dis, moi, je leur donne une référence. J'ai un patient que je considère qu'il a besoin de se faire opérer. Je lui donne une référence pour se faire opérer dans le système public. Mais c'est de mon devoir de lui dire qu'il y a une possibilité de se faire opérer au privé. Moi, je considère que si je ne lui mentionne pas, moi, j'ai aucun malaise avec ça. C'est-à-dire que moi, je dois dire à mon patient qu'il y a une possibilité de se faire opérer plus rapidement parce que il y a un créneau qui peut lui permettre, s'il en a les moyens, d'améliorer sa santé plus rapidement. Moi, je ne peux pas y cacher ça, là. Et je ne veux pas dire qu'il veut qu'on le cache, c'est pas ça. Mais le fait qu'il y ait un malaise, moi, je n'ai pas de malaise du tout avec ça. Par contre, j'ai un malaise avec quelque chose d'autre, là. Et moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec il ne demanderait pas au gouvernement d'abolir l'article 15 de la loi sur l'assurance maladie qui rend illégale toute assurance privée couvrant un service assuré par la RAMQ. À partir de ce moment-là, il y aurait des gens qui font partie de la classe moyenne, même de la classe moyenne inférieure, qui auraient la possibilité d'investir dans leur santé et de se faire soigner dans le réseau privé sans avoir à débourser de leur poche. Avec des crédits d'impôt. Ce modèle-là existe un peu partout sur la planète, dans des pays sociaux-démocrates plus performants que nous en santé. Je le rappelle au président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Il y a des modèles beaucoup plus performants qui existent. Il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que notre modèle se doit de persister? Ça, je pose la question à...
Bah. Mon cher Féline, Karim, puis tu le sais plus que moi, c'est qu'il va s'effondrer avant de persister.
Oui, c'est ça, exactement.
Puis surtout, en plus, s'il passe une affaire comme ça, c'est comme je te dis, c'est la 15 millième version de comment se tirer à grands coups de shotgun d'un genou. Là. Tu sais, c'est vous, au contraire, vous ne retardez pas l'inévitable, vous l'accentuez, tu sais, vous le mettez sur fast forward. Là, tu sais, quand on enregistrait une cassette, c'est un peu ça, tu pèses le piton. Puis regarde, on peut finir avec un peu la fin de l'article, je vais le lire.
Vas-y.
Cet exode s'observe surtout chez les jeunes médecins de famille, un phénomène quasi inexistant auparavant. Ils sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 5 ans à bouder le régime public pour exercer leur profession dans des cliniques privées où les soins sont facturés aux patients. Là, on parle de 486 médecins de famille, 234 médecins spécialisés. Québec a l'intention de renverser la tendance. Ben oui, au contraire, tu vas l'accentuer, la tendance, tu la renverseras pas. Ils jonglent avec
inversion du réel.
C'est ça. Ils jonglent avec différentes idées, comme celle d'obliger les nouveaux médecins à pratiquer au moins 5 ans dans le réseau public.
Je pense qu'on est dans Orwell, honnêtement.
Ah, ça n'a pas de bon sens. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a déjà signalé au cours des derniers mois que de plus en plus de jeunes font maintenant le choix du privé en début de carrière. Mais tu pourrais quasiment inverser les deux phrases. Ils font ça parce que, justement, le gouvernement a des idées aussi folles que ça de vouloir les forcer.
Mais c'est rare que je dis ça, là, honnêtement, parce que ça peut être interprété de toutes sortes de façons. Mais je pense qu'on est vraiment dans Orwell à l'heure actuelle. Tu sais, on est dans 2 plus 2 égale 5.
la vérité, c'est ça. Le mensonge et la vérité, le non et le oui, la lumière et les ténèbres. Alors, c'est, C'est tellement capoté, parce que justement, je le vois venir, qu'est-ce qui va arriver, là. Là, si, on va dire comme l'empereur Palpatine, là, all according to plan. Tu sais, ça va être là, ça va être, OK, on enlève les agences de placement privé pour les infirmières. On empêche, on réduit justement, on met 180 jours, peut-être même plus, les médecins, le va-et-vient entre le public et le privé. On les oblige à faire au moins 5 ans dans le public avant de starter. Le système va s'effondrer, là. Je suis désolé, mais moi qui serais un jeune médecin qui voit ces nouvelles politiques-là, puis je suis en processus de faire mon doctorat puis d'être gradué, à seconde que je gradue, je sac mon camp de la province. Je vais aller soit dans une autre province canadienne où c'est qu'il n'y a pas ça, ou à la limite, je vais aller faire ça dans un autre pays.
C'est un problème. Sérieusement, c'est ce que tu amènes là, comme potentiel effet néfaste, il est réel.
Et ça, c'est compter. Parce que, tu sais, là, je parle des médecins parce que, bien évidemment, j'assume qu'après avoir fait entre 8 et 12 ans d'études, je comprends qu'il y en a qui peuvent faire des changements de carrière, mais entends-tu que c'est un peu le sunk cost fallacy, ça aussi, là, tu sais, t'es comme crime, justement, payé cher pour ces études-là, je commencerai pas à cracher, surtout en plus quand t'es un médecin, t'as le docteur, tout. Fait que tu verras pas enseignant, mais des infirmières, ça risque plus d'arriver, eux autres. Autant qu'il y en a qui vont peut-être vouloir aller ailleurs au Canada ou aller soigner ailleurs, mais il y en a qui vont, ça a même été prouvé. Quand ils ont annoncé la nouvelle l'année passée qu'ils voulaient enlever les agences privées, il y avait à peine le quart qui disait qu'elle allait retourner dans le système public.
Combien d'infirmières qui sont au privé actuellement considèrent qu'elles sont esclaves de leur profession au point de retourner absolument au privé et ne pas changer de carrière? Pas certain que c'est si élevé que ça, là, comme ratio. Donc, faut faire bien attention avec ça. Et j'aurais aimé conclure là-dessus, c'est-à-dire que j'en reviens un petit peu. Moi, j'ai envoyé une lettre pour être publiée dans les médias à cet effet-là. C'est-à-dire, tu sais, il y a des gens qui critiquent beaucoup Éric en disant Éric, c'est un loner, il ne veut pas qu'il y ait de porte-parole autour de lui. Regardez, là. Quand ça a sorti cet article-là de la presse, Éric, il m'a appelé à 7h moins quart le matin là, pour me demander de sortir sur le sujet. Ma présence a été refusée par les médias traditionnels. Ça, c'est la réalité. Et l'attaché de presse d'Éric peut tout à fait en témoigner. Donc, de taper sur Éric en disant « c'est un loner, il ne veut pas qu'il y ait de porte-parole », c'est faux, là. Je veux dire, il voulait que je sois là, il voulait que je sois porte-parole là-dessus. Les médias ont juste refusé. J'ai envoyé une lettre écrite de ma main par rapport à ça. Ça a été refusé dans les médias traditionnels.
Et puis après, tu n'es pas un titelin. Tu sais, mettons, je ne sais pas, tu serais comptable de profession et que comme un certain ministre de la Santé et que tu voudrais parler de santé. À la limite, tu dirais d'où c'est qu'il sort ce gars-là, mais t'es docteur, calvaire, t'es urgentologue. Tu sais, je comprends que t'es pas président de la fédération de je sais pas trop quoi, mais t'as quand même une certaine légitimité à commenter le sujet. Puis encore là, non.
Oui, je veux dire, et à partir du moment, je veux dire, Vincent Marissal commente la santé de façon régulière, il faut comprendre la différence, c'est que lui, il est un élu. Donc, à partir du moment où t'es un élu, là, on peut très difficilement passer à côté de toi. C'est sûr. Mais je veux dire, quand même, là, sur le sujet, je pense que j'ai fait assez de recherches, puis
Mais c'est du tout pas de mesure, Karim, parce que, tu sais...
Pour avoir une crédibilité. Cependant, moi, j'ai pas de problème à ce que ce soit refusé. C'est-à-dire, je comprends d'une certaine façon, c'est parce que, bon, Éric, c'est une bibitte à clic. Fait qu'à partir du moment où tu as le visage d'Éric Duhem, puis c'est pas juste moi, là, je me victimise pas du tout. Il y a beaucoup d'autres très bons porte-parole dans le parti qui n'ont pas de visibilité parce que les gens savent que si tu mets la face à Éric, ça clique parce qu'il y a beaucoup de notoriété. Je suis d'accord avec ça. Mais d'un autre côté, je tiens quand même à le mentionner pour répéter à nos alliés naturels que ce n'est pas une volonté du chef lui-même. Là. Et non, à défaut d'avoir des élus à l'Assemblée nationale, c'est très difficile d'imposer des porte-parole. Parce que le média, lui, va vouloir avoir le visage à clic. Puis je tiens à le mentionner parce que je trouve ça injuste. Pas Éric qui me demande de faire ça, là. Mais je trouve ça injuste à son égard parce que je vois, et surtout sur les réseaux sociaux, puisque des fois, ce qui me fait un peu de la peine, c'est que ça vient d'alliés naturels, des gens qui sont supposés être, de par ce qu'on amène comme idée, être des alliés, puis ils amènent cette critique-là, mais en réalité, ce n'est pas une volonté d'Éric et de son groupe rapproché de ne pas envoyer des porte-paroles. C'est juste que c'est pas mal, en part si tu es en campagne électorale ou si tu vas faire une conférence, je veux dire, à la tribune de la presse. Mais si tu fais une conférence à la tribune de la presse, tu vas avoir la personne à côté, puis je suis déjà allé, puis là, tu vas répondre à quelques questions, mais tout est dirigé autour d'Éric. Ça, c'est une volonté des médias en soi. Donc, il faut juste le comprendre et sans se victimiser, au moins que nos alliés naturels comprennent cette dynamique-là puis arrêtent de taper sur Éric par rapport à ça. Ce n'est pas sa volonté, vraiment pas.
Ben écoute, si on a des auditeurs, je sais qu'on a avec Ian et Frank, on en a certains crinqués, dont un qu'il va se reconnaître assez facilement. Je ne donnerai même pas son nom, il sait qui c'est. De plus en plus, un certain Louis-Philippe Noël de son prénom.
Non, je ne connais pas.
Regarde, puis je ne veux pas faire du favoritisme. Là. Je sais qu'on a plusieurs auditeurs et auditrices qui sont aussi crinqués, mais c'est juste que lui, c'est le genre de gars d'envoyer des lettres à tous les députés de l'Assemblée nationale parler d'un sujet qu'on a jasé. Ou une injustice qu'on a vécue, il est vraiment crinqué.
Ah oui, bon, ben, tant mieux. Ouais, tant mieux si on a des alliés qui sont.
C'est ça, regarde, je lance pas juste l'appel à lui, mais à tout le monde qui nous écoute. Si vous voulez en faire un peu de votre côté, autant ça, tout ce que vous ferez par après vous regarde, bien évidemment. Mais si vous pouvez mettre un peu de pression de manière, bien évidemment, polie, démocratique et légale, bien évidemment, pour que Karim puisse exprimer au moins un minimum, mais ça serait fort apprécié aussi. Puis juste parler de ce
qu'il y a. Et pas juste moi, c'est-à-dire que il y a des candidats, du moins ceux qui croient en le parti, ceux qui ne croient pas en le parti, c'est autre chose, mais tu sais, tu as des Marie-Josée Élie, par exemple. Marie-Josée, elle fait beaucoup de tweets, elle fait beaucoup de médias sociaux, mais dans les médias mainstream, je veux dire, elle est à peu près inexistante. Là. Donc, puis tu as d'autres porte-parole également qui sont de qualité à travers le parti, mais c'est très difficile de percer le mainstream. Là. C'est un peu le point, puis c'est vraiment pas de se victimiser. Là. Ça, je le répète encore, mais que les gens comprennent la dynamique, il n'y a pas de... d'état central au sein du PCQ qui font en sorte que Éric veut prendre toute la place, bien au contraire. Si le dossier santé, il pouvait me le laisser au complet, là, puis même plus avoir à en parler ou presque dans les médias, il serait bien content.
Mais là, est-ce qu'il y a... parce que je sais qu'Éric, souvent, il va à la tribune de la presse. Là, c'est sûr que là, de cet incite, ça risque d'être plus touché parce qu'il va avoir le budget dans pas très longtemps, fait que ça va comme mélanger aux nouvelles. C'est sûr que ça risque de prendre beaucoup de place. Ouais. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, cette semaine, la semaine prochaine, mais c'est... En tout cas...
L'autre mardi d'après, ça va être le budget, là, le huis clos.
OK,
on va être là, moi je vais être là.
Parce que j'allais dire, c'est ça, si au moins, si à la limite, il pourrait t'amener à la tribune de la presse pour qu'il y ait un minimum de couverture, parce que ça n'a juste
pas... On va le faire.
Parfait.
On va le faire.
Bonne nouvelle. Fait que si vous voyez ça, au moins, si on pouvait liker, partager, tout ça, ou même ce podcast-ci, pour parler un peu en général de cette nouvelle-là, ce qui est fort important. Puis il faut, tu sais, on veut juste, en bout de ligne, on sait peut-être que juste le fait qu'on en parle puis qu'on challenge l'idée, peut-être ça va peut-être pas les faire rebrousser le chemin, mais au moins, peut-être certains trucs que... on va pouvoir changer ou faire reculer qu'il n'aurait pas fait autrement. Il ne faut pas dire que ça ne vaut absolument rien. On comprend, on n'est pas élus, ils sont majoritaires, la CAQ, même si tout le monde les a, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Mais si c'est tout cuit dans le bec comme ça, ne soyez pas surpris s'ils sortent avec le grand sourire à la fin, puis là, on représente la volonté des Québécois. Là.
Tout à fait.
C'est ça. La démocratie, c'est pas juste voter aux 4 ans, c'est aussi de pouvoir challenger puis de débattre d'idées, mais ça, au Québec, ça a l'air d'être encore bien difficile à comprendre. Écoutez, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Encore un super gros lundi avec Karim. Toujours intéressant, bien évidemment. On retombe dans la santé. En tout cas, c'est assez spécial dans notre cher Québec qu'on veut aujourd'hui. Puis qu'est-ce que ça va nous prendre pour enfin comprendre que peut-être le problème, c'est pas le méchant privé, c'est peut-être pas le voisin gonflable, c'est peut-être notre propre système déjà en train de couler qu'on essaie de sauver. Mais regarde, va-t-il falloir que le Titanic soit au fond de l'Atlantique pour se rendre compte qu'il y a un problème? L'avenir nous le dira. On espère que ça va arriver bien avant. Sinon, passez une bonne journée tout le monde. Puis sinon, on se voit demain pour un autre en toute liberté.
Bye-bye. Merci à tous.